avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, en ce lundi 8 mars, journée internationale du droit des femmes, nous allons nous pencher sur l'éducation des filles. Comment la pandémie impacte l'éducation des filles dans le monde? Plus de 11 millions de filles dans le monde sont menacées de ne pas retourner à l'école après la crise de la Covid-19. Ce sont des chiffres de l'UNESCO. Les filles manquent à l'appel essentiellement en Afrique subsaharienne. Déscolarisées, certaines filles ont été contraintes au mariage ou ont été victimes d'abus sexuels. Alors, la pandémie va-t-elle anéantir des années d'efforts et de progrès vers l'égalité filles-garçons? Quel choix politique aussi pour protéger la scolarité des filles? Nous allons en discuter avec nos invités. Yvan Savy est dans le studio de RFI à Paris, directeur général de l'ONG Plan International France. Bonjour Yvan Savy.
Bonjour.
Nous sommes aussi en ligne avec le vice-président du Partenariat mondial pour l'éducation, en anglais on dit le GPE, Global Partnership for Education, qui organise la collecte de fonds des États pour l'aide au développement en éducation. Bonjour monsieur Serine Baïtiam.
Oui, bonjour Madame Bastide, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci d'être en ligne avec nous en direct de Dakar. Vous êtes ancien ministre de l'éducation au Sénégal et vous êtes aujourd'hui ministre de l'eau et de l'assainissement. Nous entendrons aussi Armel Aziar Silvania qui a 25 ans, qui milite pour l'ONG Imara Comoros pour l'accès des filles aux études de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques aux Comores dans l'océan Indien. Et bien sûr, les voisines et les voisins. On attend vos points de vue, vos témoignages, les grandes sœurs qui militaient pour l'accès aux études des filles plus jeunes, ou bien si vous êtes enseignant, si vous êtes directeur d'école, simple citoyen, que faites-vous pour aider les filles à reprendre leur cursus scolaire, surtout avec les difficultés économiques causées par la pandémie, les confinements, les couvre-feux, les fermetures d'écoles successives? Appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Aujourd'hui, 8 mars, célébrons les droits des femmes.
Célébrons les droits des femmes le 8 mars.
Faisons-les avancer tous les jours, partout dans le monde.
Et justement, pour célébrer les droits des femmes, je vous propose d'écouter le témoignage d'une étudiante, Sharon Mukwawaya, 20 ans, en sciences botaniques à la faculté des sciences de Lomé, au Togo. Elle a cofondé l'association Pro Education Togo pour encourager les filles à poursuivre leurs études et surtout à les inciter à se lancer dans des filières scientifiques. Sharon Mukwawaya a aussi été nommée représentante résidente du PNUD au Togo grâce au programme Filles aux commandes de l'ONG Plan International. Raphaël Constant l'a rencontrée à Lomé.
Il y a encore un peu de travail à faire ici au Togo. Les femmes alphabétisées au Togo avoisinent les 45-46% ici au Togo du primaire à l'université. Mais ce qu'on peut constater, c'est que plus les filles avancent, plus le nombre de filles diminue, surtout dans les filières scientifiques où je me trouve.
Et pourquoi? Quels sont finalement les problèmes liés à l'éducation, à la scolarisation des filles et surtout au maintien des filles à l'école?
Le premier facteur qui pousse les filles à décrocher rapidement, c'est les normes et les croyances qui font croire aux filles qu'en fait, elles ne sont pas faites pour faire de grandes études, pour faire de longues études. C'est un peu le point de vue de la société qui pense qu'une femme trop instruite n'est pas soumise au foyer, une femme trop instruite est arrogante et tout. Donc, il y a tous ces propos autour qui découragent les filles, qui finalement s'arrêtent en chemin. Les petites critiques de la société aussi qui agissent, comme par exemple les filles en menstruation, pendant leur moment de menstruation, ne veulent plus aller à l'école, non seulement parce qu'elles ont peur de tâcher, et cela pourrait être un sujet de moquerie pour les garçons de la classe, ou tout simplement, on a eu un cas dernièrement, il y a une fille qui est tombée enceinte pendant son cursus et elle a refusé d'aller à l'école par honte parce que ses camarades pourront se moquer d'elle et tout.
Est-ce qu'il y a un problème aussi dû au harcèlement moral et sexuel des jeunes filles?
Le problème du harcèlement sexuel, moral, physique, même les attouchements, sont beaucoup récurrents dans nos établissements ici au Togo. Même à l'université, il y a des cas d'attouchements dont se plaignent les étudiantes et tout. Les professeurs qui harcèlent les élèves parce que l'élève a carrément dit non. Suite à son non, le professeur ne lui donne plus les bonnes notes. Du coup, ça décourage les élèves.
C'est du chantage.
C'est du chantage, justement, comme vous l'avez dit. Voilà.
Racontez-moi, Sharon, comment vous vous êtes engagée en faveur des droits des femmes et surtout pour l'accès à l'école des filles?
Tout a commencé quand j'étais en classe de seconde. Je commençais par avoir des petits problèmes en mathématiques. Comme tout élève, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de m'approcher de mon professeur de maths pour lui dire qu'en fait, j'ai toujours été bien, mais là, je ne pige plus rien. Je voulais faire les maths et les physiques et faire la C4. C'est une série propre aux maths et physiques. Et quand je l'ai dit à mon professeur, qui m'a dit que je ne pourrais jamais faire les maths, que d'ailleurs, jamais, notes, ça ne promet rien, je ne pourrais jamais faire la C4. De retour à la maison, j'ai vraiment pleuré. Mais sur le coup, quand il me l'a dit, j'étais vraiment énervée. Et la première des choses que j'ai sorti de ma bouche, c'est lui promettre qu'en fait, moi, je ferai très bien les maths et je serai sélectionnée pour la série C4. Je ne savais pas ce qui m'animait là. Ce n'était pas moi qui l'avais prononcé cette phrase, en fait. C'était une force en moi et je l'ai dit. J'ai commencé par aimer, en fait, les mathématiques, à faire la paix d'abord avec eux. Mais le prof, il donnait des exercices un peu compliqués au tableau. Il m'envoyait pour que j'aille traiter. Sachant très bien que je ne vais pas m'en sortir, histoire de trouver un alibi pour encore se moquer, j'en sais rien, devant la classe et tout. En moi, je me disais que c'est peut-être parce que je suis une fille qu'il se comportait comme ça avec moi. Et donc, je me suis vraiment donnée, j'ai commencé par vraiment m'exercer. Donc, j'ai eu mon bac scientifique. Et là, j'évolue encore dans le domaine scientifique. Et chaque jour que j'avance, je me heurte en fait contre cette inégalité entre les genres, même au laboratoire, là, tu te heurtes parce que tu es une fille, on te donne plus de responsabilités aux garçons, et franchement, ça me met hors de moi.
Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites pour inciter les filles à aller à l'école et surtout à rester à l'école?
Concrètement, sur le terrain, nous faisons aussi de la répétition ou des cours de soutien à la maison pour les jeunes depuis le primaire jusqu'au lycée. Donc, nous développons beaucoup plus des relations personnelles avec ces filles. Nous parlons plus de leur donner beaucoup plus confiance en elles, l'estime en fait, ou ne pas tomber enceinte trop tôt. Suite à cela, le parent pourrait ne plus vouloir scolariser.
Donc, sur tous les défis qui attendent les filles voilà. Dans leur trajectoire scolaire, en fait.
Exactement, exactement. Et aussi, de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de différence entre le genre dans la scolarisation, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne réussit pas à l'école grâce à son sexe. On réussit parce qu'on est intelligent ou parce qu'on sait s'y prendre.
Depuis le début de la pandémie, est-ce que vous avez constaté qu'un certain nombre de filles ne sont pas retournées à l'école?
Alors pendant la crise sanitaire du Covid-19, les écoles ont aussi été fermées ici au Togo. Il y a un nombre de filles qui ne sont pas retournées à l'école à cause des grossesses précoces, mais je n'ai pas le chiffre exact pour vous donner présentement. Mais ce n'est pas un pourcentage trop élevé. Enfin, ça ne crie pas trop ici au Togo quand même. Voilà. Pendant la crise, c'était compliqué pour les parents de joindre les deux bouts parce qu'il y avait les services qui étaient aussi fermés. Les femmes ménagères, par exemple, ne pouvaient plus aller au marché, mettre leur étalage et avoir leurs petits sous. Donc, il y a certaines filles qui ont dû laisser les écoles, même après la crise, pour aider les parents et n'ont plus repris les cours. Les parents ne doivent pas empêcher leurs filles de rêver, de pouvoir atteindre ce qu'elles veulent faire. C'est ce que je voudrais envoyer comme message aux parents, peut-être, qu'en fait, les laisser continuer les cours serait peut-être une façon d'avoir beaucoup plus d'argent demain, en ce sens où quand elles continuent les cours, elles iront forcément ou certainement trouver un bon emploi qui ramènera de l'argent dans la famille beaucoup plus tard. Donc, de faire ce sacrifice, en fait, et de pouvoir renvoyer les filles à l'école. Il y a un truc que je voudrais souligner, c'est que c'est les filles qui sont restées, les garçons sont retournés à l'école. Tout simplement parce que cette norme qui vient renforcer cette mentalité selon laquelle la fille est destinée à fonder son foyer et puis c'est tout, alors que l'homme doit faire de grandes études. Si les parents comprennent en fait que les filles pourront faire les mêmes choses que les garçons, je crois que le problème serait réglé et que les filles pourront reprendre leurs cours, peu importe la situation que la crise sanitaire a créée aujourd'hui.
C'était Sharon Mukawaya, qui est représentante résidente du PNUD au Togo grâce au programme Filles aux commandes de l'ONG Plan International, interrogée par Raphaël Constant. Yvan Savy, vous représentez l'ONG Plan International côté France. Comment évaluer à l'heure actuelle l'impact de la pandémie sur la scolarisation ou les difficultés de scolarisation des filles à l'heure actuelle?
Alors, on fait des estimations au niveau mondial, et après c'est assez difficile de descendre dans chacun des pays, parce que les impacts, on l'entend bien dans ce témoignage, c'est multifacette les défis que connaissent les filles, et donc quand il y a une crise comme le Covid qui vient, on vient rajouter des obstacles à un maintien dans l'école, parce que les parents ont besoin d'elles, parce que les parents doivent faire des choix en matière économique, ils ont besoin de l'aide de leurs enfants, parce qu'à l'école, c'est l'endroit où les filles peuvent prendre confiance en elles, et donc quand elles ne sont plus à l'école, elles perdent confiance en elles, et elles peuvent abandonner, alors qu'on sent qu'il peut y avoir du courage dans un certain nombre, et dans beaucoup de ces jeunes filles, elles ont envie de continuer, mais si on rajoute un obstacle supplémentaire, là, ça peut les faire chuter. Aujourd'hui, ce que l'on peut estimer dans le monde, c'est qu'effectivement, il y a 11 millions de filles qui vont peut-être ne pas retourner à l'école quand les écoles réouvrent. Il y a également, alors qu'on avait atteint la parité dans l'accès à l'éducation primaire, il y a 15 millions de filles, on estime, qui n'accéderont jamais même à l'école primaire. C'est terrible. Les questions aussi de grossesse précoce et de sexualité des adolescentes sont des choses qui font que les parents font des choix qui ne sont pas les bons pour l'avenir de leurs filles parce qu'ils pensent les protéger. Là aussi, avec
même si l'accès à l'éducation crée de la richesse, mais évidemment à plus long terme. Hein. Donc on est aussi sur un calcul de court terme qui est que marier une jeune fille, c'est aussi une bouche de moins à nourrir.
Oui, ou c'est aussi des questions de mentalité des sociétés. C'est éviter le risque que la fille puisse faire développer une relation et avoir peut-être un enfant, ce qui est considéré comme très grave. Et aujourd'hui, la fermeture des écoles, c'est aussi 47 millions d'adolescentes dans le monde qui n'ont plus accès à l'éducation à la sexualité, qui n'ont plus accès aux contraceptifs. Et ça, c'est terrible pour elles. L'accès aussi à l'hygiène féminine est important. Il est fourni souvent dans les collèges. Et ça, c'est aussi l'impact de la pandémie.
Alors, on va bien sûr revenir sur tous ces freins à l'éducation des filles qui étaient déjà présents avant la pandémie, mais qui se trouvent renforcés par la pandémie, la fermeture des écoles, l'interruption du système et de la formation et de l'éducation. Nous sommes bien en ligne avec M. Serine Baïtiam. Vous êtes vice-président du Partenariat mondial pour l'éducation, donc le GPE, qui organise la collecte de fonds des États pour l'aide au développement en éducation. Vous êtes aussi ancien ministre de l'éducation au Sénégal, je l'ai dit, et aujourd'hui ministre de l'eau et de l'assainissement. Alors, votre pays, le Sénégal, vit des heures difficiles de violence. De nouvelles manifestations sont attendues cette semaine, notamment en soutien à l'opposant Ousmane Sonko, mais tous les cours sont suspendus pour la semaine. Le Sénégal, c'est aussi un pays qui est parvenu ces dernières années à la parité en éducation, voire même plus, puisqu'on a plus de filles que de garçons, notamment à l'école primaire, Serine Baïtiam.
Oui, bien sûr, comme vous le dites, le Sénégal est un pays qui a atteint la parité, aussi bien au niveau de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement élémentaire, de l'enseignement moyen que de l'enseignement secondaire. Le Sénégal est un pays qui a bénéficié des financements du Partenariat mondial pour l'éducation dès l'année 2007. Et ce financement du Partenariat mondial pour l'éducation a permis d'accroître l'accès, le taux d'accès à l'éducation élémentaire dès les premières années et en même temps de travailler sur la résorption du gap entre l'éducation des garçons et des filles. Mmh. Et c'est en 2018 que le dernier palier pour l'éducation pré-universitaire a été atteint. C'est en 2018 que le Sénégal, au niveau des élèves qui étaient bacheliers, a eu plus de filles bacheliers que de garçons. Et avant cela, progressivement, on a même plus de filles scolarisées au niveau de l'enseignement préscolaire, ensuite au niveau de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement moyen. Mmh. Donc, c'est dire qu'il y a des progrès qui ont été faits dans ce cadre-là. Mmh. Et tout à l'heure, pour rebondir sur l'étudiante togolaise qui a parlé des filles dans les domaines scientifiques, je voudrais seulement citer un exemple. Quand j'étais ministre de l'Éducation, le président Macky Sall avait décidé de créer un lycée scientifique d'excellence où on recrute les 60 meilleurs élèves issus de l'enseignement moyen, ça veut dire de la classe de 3e, et pour leur faire des études scientifiques. Et je me souviens, en faisant le décret créant ce lycée, on était en train d'hésiter, est-ce qu'il ne fallait pas mettre dans les dispositions qu'on devait avoir autant de filles que de garçons. Et finalement, on a laissé le recrutement ouvert sur concours seulement. Et on se rend compte qu'après 3 années, dans ce lycée, sur 180 élèves, on a 98 filles et 82 garçons. Et chaque année, on a plus de filles qui sont admises dans ce concours très sélectif dans les matières scientifiques. Et pour former l'élite scientifique du Sénégal, on a plus de filles que de garçons. C'est dire qu'en donnant aux filles l'opportunité de s'épanouir, y compris dans les matières scientifiques, on peut avoir des filles qui vont émerger et qui vont servir leur pays plus tard.
Ça veut dire que les quotas ne sont pas forcément nécessaires ou obligatoires si on donne les filles, les moyens aux filles de parvenir à l'excellence. Quelles sont les actions du partenariat mondial de l'éducation quand elle finance des pays partenaires pour parvenir à réduire l'écart entre la scolarisation des filles et des garçons? Comment vous faites? Comment vous travaillez?
D'abord, je voudrais indiquer pour ce qui est des actions passées du partenariat, je peux citer par exemple l'exemple d'un pays comme la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a bénéficié depuis 2013 de 200 millions de dollars de financement. Et cette subvention a permis de lutter contre les inégalités entre les sexes dans les provinces du Kasaï-Ouest et de l'Équateur. Et comment? C'est en soutenant l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action pour améliorer l'éducation des filles dans ces deux provinces. Et ce qui fait que près de 1 400 000 filles à l'école primaire ont été bénéficiaires de ce programme, dont 82 000 filles nouvellement scolarisées. Et les actions qui ont été menées, c'est des actions de sensibilisation, de promotion et de discrimination positive pour l'accès des filles, et y compris la révision des manuels scolaires, révision qui devait tendre à éliminer les références et les stéréotypes sexistes, avec une campagne de sensibilisation au niveau des communautés pour l'éducation des filles. Et je voudrais préciser que le prochain plan stratégique du Partenariat mondial pour l'éducation, qui aura comme point d'orgue le Sommet mondial pour l'éducation, qui va se tenir le 28 et le 29 juillet 2021, au Royaume-Uni, sous la coprésidence des premiers ministres Boris Johnson et du président Uhuru Kenyatta, va avoir justement ce nouveau plan stratégique, mais l'accent sur l'éducation des filles, avec des objectifs qui sont visés pour accroître l'éducation des filles dans les pays en développement.
Alors, avec toujours cette difficulté pour le Partenariat mondial pour l'éducation de reconstituer les fonds à chaque sommet mondial pour l'éducation, de savoir si les partenaires au Nord vont vraiment répondre à l'appel, puisqu'il y a toujours des déclarations de bonnes intentions. Et ensuite, il faut effectivement que les financements arrivent. Je vous propose d'écouter le message qui a été posté par une de nos auditrices sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Le message d'une voisine à Dakar. Jeanne Mariama.
Salut les voisins et les voisines, bonne fête de 8 mars. Ici au Sénégal, la fête a commencé le 7 à l'honneur des femmes d'Ender. Elles s'étaient battues pour protéger leur royaume et c'était le 7 mars 1820. Ender se trouve dans le Wallo, au nord du Sénégal. Et concernant l'émission d'aujourd'hui sur la déperdition scolaire chez les petites, la distance entre les établissements scolaires, l'état des établissements scolaires, dont un bon nombre de salles de classe sont des abris provisoires, et surtout, la chèreté du matériel scolaire. Il y a une question que je voudrais poser à tous les dirigeants d'Afrique. Pourquoi vous préférez avoir des voitures de luxe comme voitures de fonction, des jets privés? Or, il y a énormément de petites filles qui vont à l'école à pied sur de longues distances, qui ont le strict minimum comme matériel scolaire. Merci. Bonne journée à vous les voisines et bonne fête encore.
Merci à vous, Jeanne Mariama. Merci aussi d'avoir cité le 7 mars, la fameuse date du sacrifice des femmes d'Under à la fin du 19e siècle, qui ont préféré brûler vives plutôt que de devenir captives des invasions maures. Bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, sur les raisons qu'elle évoque, Jeanne Mariama, de la non-scolarisation des filles, la distance, l'état des établissements scolaires, le prix du matériel scolaire, Serine Baïtiam, en tant que vice-présidente du Partenariat mondial pour l'éducation, quels moyens vous donnez aux États avec qui vous travaillez pour combler ces manques?
Oui, tout à l'heure, vous aviez évoqué la reconstitution des fonds, le problème de la reconstitution des fonds. L'objectif que nous avons pour la prochaine campagne de reconstitution des fonds, ces 5 milliards de dollars pour lesquels nous invitons tout le monde à lever la main en faveur de l'éducation pour mobiliser 5 milliards de dollars américains sur la période 2021-2025. Je voudrais indiquer que les pays partenaires, lors de la dernière campagne de reconstruction qui a été abritée en février 2018 ici à Dakar et coparrainée par les présidents Emmanuel Macron et le président Macky Sall, a atteint ses objectifs et le financement est en cours actuellement. C'est toutes ces questions-là qui posent un problème. Le partenariat mondial est né sur l'idée que, un, il y avait un problème d'accès à l'éducation, deux, il y avait des inégalités dans l'accès à l'éducation, inégalités de sexe, inégalités dues à des facteurs socio-économiques entre les ménages, et les progrès qui ont été réalisés pendant cette période-là sont des progrès notables. Dans tous les pays où le partenariat mondial pour l'éducation est intervenu, on a vu les distances entre les lieux de résidence et les écoles, ces distances-là être réduites. Nous avons vu des programmes au niveau des établissements scolaires pour avoir des toilettes avec la sensibilité genre, parce que quelquefois, les jeunes filles, surtout au niveau de l'enseignement moyen, qui étaient dans certaines périodes du mois, ne venaient pas à l'école parce qu'il n'y avait pas toutes les commodités. Mmh. Et l'intervention du partenariat a permis de tenir compte de la dimension genre, y compris au niveau de la construction des établissements scolaires et en même temps de la dimension personnes handicapées. C'est toutes ces questions-là, parce que plus d'écoles construites, ça veut dire plus d'écoles qui se rapprochent des villages, qui réduisent les distances pour que les filles aillent à l'école. C'est un défi qui est encore actuel. C'est la raison pour laquelle le Partenariat mondial pour l'éducation demande encore un financement à côté des financements des pays en développement, qui est le financement le plus important pour atteindre les objectifs d'éducation pour, dans le cadre de son plan stratégique 2025 et en même temps améliorer l'éducation des filles.
Yvan Savy de l'ONG Plan International, l'objectif de 5 milliards de dollars pour l'éducation, alors pas que pour l'éducation des filles, hein, bien évidemment, dans le contexte actuel de crise économique mondiale, est-ce que ça vous semble réaliste ?
Mais c'est essentiel de continuer à investir et de maintenir cet investissement, justement parce qu'on a un recul de 20 ans de progrès qu'on a obtenu depuis le début de la pandémie. Je pense qu'il faut aussi que les auditeurs sachent que cette mobilisation des donateurs du Nord, c'est une partie de la solution. Les États eux-mêmes, des pays en développement, mobilisent énormément de moyens pour l'éducation. Le Sénégal est un bon exemple de pays qui a investi et qui investit depuis longtemps dans l'éducation. Donc c'est ensemble, c'est les moyens mobilisés par les États et les pays qui ont des défis à relever, plus l'appui du partenariat mondial pour l'éducation.
Alors justement,
et sur la question de la distance, c'est une question essentielle, parce qu'aujourd'hui, ce sont dans les zones rurales qu'il faut accompagner les jeunes filles pour accéder à l'école. Et dans ces zones rurales, il y a tout un travail à faire, rapprocher l'école, mais aussi changer et accompagner le changement des mentalités pour que, une fois que l'établissement scolaire est là, les filles puissent y aller et effectivement et y rester, y compris quand elles connaissent leur période de menstruation, par exemple, qu'elles ne soient pas cantonnées à la maison, sinon elles ratent. Elles ratent jusqu'à un cinquième du temps éducatif, simplement parce que chaque mois, elles quittent l'école. Donc c'est tout un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place.
Ça veut dire construire des établissements en très grand nombre, hein, si on veut rapprocher l'établissement du domicile des filles. Dans les pays à faible revenu, on a moins de 2 filles sur 3 qui achèvent le cycle primaire, 1 sur 3 seulement qui achèvent le premier cycle du secondaire. Serine Baitiam, pour revenir à la dernière partie de la question de notre auditrice qui disait finalement, question au chef d'État africain, pourquoi est-ce que vous avez des voitures de luxe, pourquoi vous ne fournissez pas le strict minimum de matières scolaires, de matériel scolaire. Le partenariat mondial pour l'éducation est aussi un partenariat qui fonctionne et qui exige des États qu'ils financent une grande partie des besoins de l'éducation dans leur pays. Est-ce que vous avez la sensation, le sentiment que c'est toujours bien respecté quand vous mettez la pression sur ces pays pour que l'éducation soit le premier budget de l'État ?
D'abord, il faudrait indiquer que si je prends l'exemple de la campagne de reconstruction des fonds de 2018, ce qui était attendu des pays donateurs, c'était environ 2,7 milliards de dollars. Et la contribution des pays en développement dans le budget, c'est de l'ordre de 110 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'il faut que les gens comprennent que le premier financement de l'éducation dans les pays en développement, c'est le financement sur des ressources intérieures et endogènes des États. Budget des États, budget des familles, budget des communautés. Mais cela ne veut pas dire que le financement des pays donateurs n'est pas important, parce que le défi de l'éducation est un défi mondial. L'éducation est importante pour la sécurité et la prospérité mondiale. Donc maintenant, au niveau du GPE, dans les critères d'allocation des ressources, le pays doit mettre au minimum 20% de ses ressources dans le secteur de l'éducation. Et ce sont des critères qui sont vérifiés au moment où le conseil d'administration cloue des ressources du partenariat mondial pour l'éducation à un pays, et cela est suivi dans le cadre de l'exécution du programme. C'est tout ça que nous mettons. L'éducation, bien sûr, est un défi dans nos pays, mais nous sommes des pays aussi, les pays en développement sont des pays qui ont des besoins dans tous les secteurs, multiformes, et il y a des apprentissages difficiles à faire, mais ce contrôle est fait par le partenariat mondial pour l'éducation.
Serine Baïtiam, avant que vous nous quittiez, je sais que vos obligations de ministre, évidemment, sont toujours là. Vous êtes vice-président du Partenariat mondial pour l'éducation, et c'est en ce nom que vous vous exprimez dans l'émission, mais vous êtes aussi un ministre en exercice au Sénégal. J'aimerais que vous nous disiez quel est votre sentiment sur la situation actuelle au Sénégal en ce moment même.
Bon, le fait que ma participation à cette émission qui était prévue plus d'un mois puisse être maintenu aujourd'hui pendant que les médias sont en train de faire état d'émeutes et de troubles au Sénégal, prouve que les institutions fonctionnent et l'État est debout. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, c'est une situation difficile, comme d'autres pays connaissaient les situations à un moment donné. On l'a connu en France récemment avec les Gilets jaunes, on l'a connu aux États-Unis à la suite de la mort de George Floyd, et ainsi de suite. Mais l'État du Sénégal est debout, et je pense qu'avec le leadership du président Macky Sall, avec le génie des responsables politiques de notre pays, des responsables de la société civile et le génie du peuple sénégalais, nous saurons surmonter ces moments difficiles. Et je voudrais donc dire à tous les amis et à tous les partenaires du Sénégal de faire confiance au Sénégal. Nous sommes en train de travailler pour que la stabilité du pays revienne dans le respect des institutions, dans le respect des principes de droit et des libertés individuelles et collectives.
Merci à vous, Serine Baïtiam, d'avoir été en direct sur RFI chez 7 milliards de voisins. Événement, bien sûr, à suivre sur Radio France Internationale. Dans quelques instants, on va donner la parole, on va reprendre notre débat sur l'éducation des filles. On va donner la parole à une étudiante comorienne qui milite pour l'accès des filles à l'éducation, notamment dans les filières scientifiques. Et bien sûr, on prend vos appels au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et nous sommes en ligne avec une voisine, Mariama, qui est à Niamey, au Niger. Bonjour Mariama.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
Ok. La situation de la scolarisation des filles au Niger est assez délicate jusqu'à ce jour, notamment en milieu rural où il faut que l'État et les ONG accompagnent et encouragent les parents à envoyer et maintenir leurs filles à l'école à travers l'appui en vivres, tels que des céréales et souvent des bourses même pour pouvoir encourager ses parents à laisser leurs filles à l'école. Également, il est fréquent de voir en milieu rural des classes au collège dans lesquelles il y a une seule fille, notamment dans les classes d'examen vers la troisième. Donc,
vous dites des classes, pardonnez-moi, je ne suis pas sûre qu'on ait bien entendu, vous dites des classes où il n'y a qu'une seule fille au niveau collège?
Oui, tout à fait, en milieu rural.
En milieu rural. Comment vous expliquez que les freins à la scolarisation des filles soient encore si présents?
Les présentateurs sociaux qui jouent jusqu'à ce jour. Vous n'êtes pas sans savoir que le mariage précoce est super présent au Niger. Nous avons le taux le plus élevé au monde, qui avoisine les 67%. Donc jusqu'à ce jour, beaucoup de parents nigériens pensent qu'il est préférable de retirer leurs filles de l'école pour les donner en mariage, plutôt que de les laisser dans un système éducatif incomplet. Car en milieu rural, il y a des écoles dans lesquelles le nombre d'enseignants même n'est pas effectif. Il y a des classes dans lesquelles, par exemple, il n'y a pas de professeur d'anglais ou il y a difficilement un seul professeur de maths pour toute l'école. Donc, et dans ces zones reculées, même les jeunes diplômés ont du mal à accéder à ça. Donc, toutes ces choses font que les parents sont hésitants. Ils se disent que est-ce que l'école leur est vraiment rentable. Ils préfèrent souvent garder leur fille à l'école, même si ce n'est pas pour leur donner un mariage, que de les envoyer à l'école. Mmh.
Ça veut dire qu'il y a une méfiance, finalement, sur l'efficacité de l'école.
Il
y a une méfiance par rapport à l'efficacité de l'école
tout
pour
à
les
fait.
Filles.
Mmh. Parce qu'il y a des écoles en milieu rural depuis 1980, qui jusqu'en 2019, où nous les avons visitées, n'ont aucun diplômé. Donc, les parents n'en voient pas l'intérêt. S'il faut laisser mon enfant à l'école pendant combien d'années pour qu'au final, elle ne puisse même pas lire une ordonnance, ça nous a été dit par un parent. Donc, pourquoi laisser mon enfant à l'école?
Mariama, vous avez 26 ans, hein, je crois que vous êtes chargée de programme dans une ONG, justement, qui développe des actions pour les femmes.
Tout à fait, il s'agit de l'ONG Femmes Action et Développement, pas du Niger.
Est-ce que vous avez un message à faire passer en ce 8 mars, Mariama, pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent surtout, parce que vous faites partie des grandes sœurs, vous, finalement?
Oui, tout à fait. En ce 8 mars, tantôt, j'en discutais avec une autre radio, vraiment les Nigériens et les Africains de façon générale, à mettre l'accent sur l'éducation, à investir dans l'éducation. Parce que tant que nous n'aurons pas des femmes instruites, elles contribuent effectivement au développement de notre pays. Et au Niger, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, donc nous avons davantage besoin de cela.
Merci à vous, Mariama, au Niger. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous souhaite une belle journée du 8 mars, malgré les difficultés. Je vais redonner ce chiffre à l'échelle mondiale. Vous parliez du mariage. Chaque année, on a 12 millions de filles de moins de 18 ans qui sont mariées de force. Christian Savy, de plan international, est-ce que vous souhaitez réagir à l'appel de Mariama?
Oui, je voudrais réagir en disant que voilà, c'est important. Tout à l'heure, on parlait des filières d'excellence. Il faut qu'il y ait des filles qui puissent accéder à l'éducation, qui ont ce potentiel et qui ensuite jouent un rôle d'inspiration, de modèle pour d'autres filles qui leur donnent envie. Mais il faut qu'on donne accès à toutes les filles. C'est la notion d'inclusion. Donc, en milieu rural, c'est là que les défis sont les plus élevés. Il faut créer les conditions pour que les parents disent « Investir dans l'éducation de ma fille, c'est le meilleur choix pour elle et c'est le meilleur choix pour notre famille et notre communauté. » Il faut accompagner cela parce que les défis, quand on est très pauvre, sont importants. Malheureusement, les parents ils font pas toujours les choix qu'ils peuvent faire. Et c'est là que le partenariat mondial pour l'éducation, l'investissement des États est vital pour accompagner, aider les parents à avoir des solutions et construire comme ça progressivement un accès à l'éducation pour toutes les filles.
Ça veut dire que une école qui fonctionne, qui donne accès aux filles, c'est avant tout un système scolaire qui fonctionne bien dans son ensemble, y compris pour les garçons, finalement. C'est ce qu'on comprend.
Oui, et la qualité, parce que ce qu'a dit notre jeune auditrice est très important. S'il n'y a pas la qualité de l'éducation dans l'école, c'est un peu un leurre. Et ce leurre, à un moment, les parents s'en rendent compte, les communautés s'en rendent compte et questionnent tout cela. Donc il faut... Et c'est là aussi que le partenariat mondial pour l'éducation apporte un appui technique aux États pour qu'il y ait une qualité des enseignements.
Alors, on l'évoquait en début d'émission, la pandémie vient tout de même bousculer probablement des années de progrès. Vous nous appelez sur notre compte WhatsApp, le 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à une autre auditrice, Armélie, qui est commerçante alimentaire à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Armélie.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue. Vous souhaitez nous parler de votre situation familiale?
Oui.
On vous écoute, Armélie.
Aujourd'hui au Congo, avec la pandémie, l'école c'est plus 6 jours. Donc c'est 3 jours dans la semaine dans les écoles publiques. À cause du Covid, il fallait scinder les classes pour diminuer le nombre d'élèves dans les classes. Et le jour d'école, c'est 3 jours par semaine, donc 1 jour sur 2.
Oui.
Et du coup, les jours que les enfants n'ont pas cours, les jeunes, ils traînent, ils sont dans la rue. C'est vraiment inquiétant pour les jeunes filles, parce que le jour qu'elles n'ont pas cours, elles sont dans la rue.
Oui.
Donc, elles risquent de ne pas finir leur cycle primaire, collège ou le lycée avant, et elles peuvent tomber enceintes. Et l'État ne fait rien pour accompagner les élèves ou les parents le jour que les enfants n'ont pas cours.
Oui.
Parce que les parents ne sont toujours pas là, et les parents sont à l'école, au travail plutôt, ou au commerce, sont occupés. Par contre, les écoles privées, les enfants en cours normalement, mais l'école publique, c'est le chaos. Mmh, c'est moins inquiétant pour les enfants et surtout pour les jeunes filles.
Armélie, vos enfants, vous avez des filles ?
Oui, j'ai une fille et un garçon.
Uh-huh. De quel âge votre fille ?
15 ans et le garçon 6 ans.
Ouais. Comment ça se passe, sa scolarité ?
Eux, ils sont à l'école privée.
Mmh. Et sa scolarité, elle a de bons résultats, votre fille ?
Oui, mais le garçon plus.
Ah, le garçon plus. Oui. Bon.
Oui.
6 ans.
Oui, en même temps,
il... sa grande sœur.
Oui, il n'a que 6 ans, donc qu'est-ce qui vous permet de dire que votre garçon a de meilleurs résultats scolaires ?
Non, sa grande sœur est souvent parmi les 10 premiers et lui, il est toujours premier, le petit.
D'accord, bah alors il faut pousser votre fille, Armélie. Merci, oui. En tout cas, merci de nous avoir appelés en direct chez 7 milliards de voisins. C'est vrai que le temps libre créé par le défaut d'école est problématique pour les jeunes filles.
Il est problématique pour tous les jeunes hein, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, comme l'a très bien dit cette auditrice. Et c'est vrai que les écoles privées ont des moyens pour continuer à fonctionner, que l'école publique, dans des États qui ont des difficultés, dans des zones rurales, ont du mal à maintenir. Une classe où il y a 120 élèves en temps habituel, c'est juste impossible à maintenir avec les contraintes actuelles. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est là aussi le rôle de la société civile. Il y a des organisations locales qui organisent les jeunes, qui font des clubs. Et là, les jeunes peuvent se retrouver et peuvent travailler. L'éducation entre pairs, c'est aussi des solutions. Un jeune qui n'a pas de difficultés scolaires peut aider un de ses copains ou de ses copines à travailler. Et donc, il faut organiser aussi les jeunes et les communautés pour avoir des solutions.
L'enseignement secondaire, en général, est payant hein, sur le continent africain. Si on reprend le cas du Togo, on entendait cette militante tout à l'heure qui s'exprimait. Au collège, les frais scolaires sont moins élevés pour les filles. Alors, pas tellement moins, mais moins élevés quand même que pour les garçons. Je crois qu'il y a 1000 francs CFA d'écart. Est-ce que, et au lycée aussi, bien évidemment aussi, hein, c'est moins cher pour les filles que pour les garçons. Est-ce que ça, c'est une piste ? C'est un signal fort qui est donné aux familles ou pas, selon vous ?
Oui, c'est un signal, évidemment, parce que quand chaque franc CFA compte, ben, la famille, elle fait des choix et elle peut faire des choix différents si on accompagne cela sur le plan économique. Nous, on est en train de travailler au Togo avec le ministère de l'Éducation togolais, avec l'appui de l'Agence française de développement, pour construire 90 collèges, particulièrement en zone rurale et dans le nord du pays, particulièrement dans la zone des savanes, où le décrochage des filles est le plus important par rapport à celui des garçons. Mais on sait bien, puisqu'on a déjà travaillé sur ces programmes-là, de réforme dans le cadre de réforme du collège, que construire des établissements, c'est la première étape. Mais ensuite, il faut faire en sorte que toutes les familles, et nous on le fait comme un peu une des conditions dans la construction du collège, de dire, ok, nous on va amener le collège, on va investir dans les infrastructures, mais ce qu'on attend de vous les parents, c'est que vous allez gérer cet établissement ensuite, vous allez en tant que parents d'élèves vous impliquer, et vous allez vous engager à ce que vos filles puissent aller à l'école autant que les garçons. Et donc c'est travailler avec les parents, avec les enseignants, les leaders communautaires, le maire, les chefs religieux, pour installer tout ça dans chacun des endroits où on construit un collège.
On va donner la parole maintenant à Armel Aziar Slivania qui est en ligne avec nous. Bonjour Armel Aziar.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci d'être avec nous en direct chez 7 milliards de voisins en ce lundi 8 mars, journée internationale du droit des femmes. On parle de l'accès à l'école des filles et bien sûr des menaces de la pandémie hein, sur la scolarisation des filles. Vous avez 25 ans et vous militez pour l'ONG Imara Comoros, vous êtes comorienne. Votre militantisme porte vraiment sur l'accès des filles aux études de sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Vous étudiez actuellement au Cameroun, vous avez grandi... on va dire au village, hein, aux Comores, en zone rurale, dans l'océan Indien.
Oui.
Dites-nous quel a été votre parcours personnel pour que vous deveniez militante pour les droits des filles aux études.
Bonjour, merci pour la présentation et bonne journée internationale de la femme à toutes les femmes au monde. Je grandis avec une très bonne éducation, j'avais pas aucun de soucis, mais j'avais très envie d'aider d'autres jeunes. Parce que je voyais quand j'étais jeune, j'avais ces talents-là, mais je n'avais pas cette plateforme de l'exploiter ou de montrer. Donc quand je grandis et fini, j'avais l'envie et l'ambition de vouloir aider le jeune, alors dans l'opportunité. Parce que j'ai vu qu'au pays, les jeunes ont des talents, mais ils n'ont pas le plateforme pour l'exploiter ou pour montrer leurs talents. Donc c'est ce qui m'a vraiment poussée à intégrer l'organisation et à aider des jeunes.
Et comment vous-même vous avez été poussé, notamment à partir au Cameroun pour vos études en tant que comorienne ? Qui bon, vous a poussé, vous, qui vous, Armel Aziar, qui vous a poussé?
Oh, je grandis aux Comores, j'ai fait toutes mes études aux Comores, même universitaires. Je viens d'être graduée l'année dernière, en 2020. Mm-hmm. Et du coup, vu la situation familiale, je ne voulais pas imposer ma famille d'aller faire des études, vu que je vois le moyen familial. Donc, je regardais en ligne pour avoir des opportunités. Et je vis une inscription pour une bourse panafricaine.
Oui.
Et je postulais, par bonne chance, je l'ai eu. C'est pour cela que je suis aussi aujourd'hui à l'université panafricaine de Yaoundé, pour étudier à une master de conférence d'interprétation pour 2 ans.
Alors vraiment, vous vous êtes débrouillée toute seule. Hein. Comment vous agissez au sein de l'ONG Imara Comoros avec les filles? Mais est-ce que vous travaillez aussi avec les garçons pour faire changer les mentalités? Comment vous travaillez?
Imara Comoros, c'est une ONG qui vise à améliorer le niveau d'éveil intellectuel des jeunes Comoriens à travers des formations et des événements diversifiés. Mm-hmm. Donc, on travaille avec des filles et des garçons. On a des programmes des juniors âgés de 5 ans à 12 ans et des seniors âgés de 16 ans à 24 ans.
Oui.
Donc, on travaille sur trois différents aspects, que le leadership, l'art et le STEM. La porte est ouverte avec tout le monde, soit fille ou garçon, mais on encourage vraiment les filles parce que venant d'un pays très musulman, les filles sont trop délaissées et ils ne sont pas trop poussées en avant parce qu'on grandit avec l'idée que tant que tu es une fille, tu dois avoir cette idée littéraire, tu dois être un professeur, mais tu n'as pas cette chance-là d'être encouragée dans tes capacités intellectuelles.
Ouais.
De devenir une autre personne.
Je sais que vous avez travaillé avec une ONG américaine qui organise un concours de robotique chaque année et que l'équipe de votre ONG comorienne a gagné une médaille d'argent pour un robot pour le climat. Quelles sont les réactions de la communauté par rapport à vos actions, à votre positionnement?
D'accord. Parce que l'organisation internationale qui organise la compétition de robotique s'est ouverte depuis 2017. Et du coup, en 2018, il n'y avait aucune équipe comorienne. Donc, ils étaient à la recherche d'une équipe comorienne.
Uh-huh.
Et ils nous ont vu nos activités sur Internet. Mais à ce moment-là, on ne travaille pas dans le domaine du STEM. Et du coup, ils nous ont demandé si on est intéressé d'y participer. On leur a dit que nous, on ne travaille pas dans ce domaine-là. Ils ont dit, ce n'est pas un souci, on va vous envoyer des mentors. Si vous êtes intéressés et vous avez l'ambition, vous pouvez y arriver. On a accepté, ils nous ont envoyé des mentors. On a parlé à nos enfants, ils étaient intéressés. Et on s'est lancé dans le projet. On a participé à la compétition en 2019. Et on a fini avec une médaille d'argent, avec l'équipe le plus encouragée. Parce que vu que c'est le début et tout le parcours qu'on a fait d'en arriver là, c'était vraiment exceptionnel. Mmh. Et au pays, ça a vu comme quelque chose de vraiment extraordinaire. Parce qu'on avait cette mentalité-là que quelqu'un qui doit construire un robot et le faire marcher, ça doit être quelqu'un qui a un PhD, un master en ingénierie et tout ça. Et de voir des jeunes lycéens et aussi des filles venant de différentes localités rurales du pays, c'était... Personne n'acceptait pas. Et même deux fois, quand ils viennent, ils disent « Fais-nous voir vraiment si ça va marcher, si ça fera des actions. » C'était vraiment quelque chose de nouveau.
Ouais, vous avez démontré que les lycéennes pouvaient être une fierté pour les Comores. Est-ce que vous avez un dernier message, vraiment en quelques mots, Armel Aziar, à faire passer aux enseignants qui nous écoutent, aux parents, aux lycéennes, à tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent en ce 8 mars pour l'éducation des filles?
Mon message aux parents et aux enseignants, c'est de pas vraiment faire de la théorie. Les enfants, ils ont vraiment besoin du pratique parce qu'ils ont du talent. Mais on ne leur donne pas la chance de les exploiter. Donc, d'encourager, surtout dans les écoles, dans les organisations, de faire plus de pratiques, de montrer aux enfants que tout ce qu'on part, c'est ça. Vous le pratiquez en même temps. Et comme ça, ils grandiront avec une bonne compréhension de la leçon et de tout ce qu'ils apprennent.
Merci beaucoup à vous, Armel Aziar Slivania, d'avoir été en ligne avec nous. Je le rappelle, vous avez 25 ans, vous êtes comorienne, vous êtes à l'heure actuelle étudiante au Cameroun, vous êtes arrivée là par vos propres moyens, on va dire, et aujourd'hui, vous redonnez un peu de votre énergie aux petites sœurs. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous chez 7 milliards de voisins. Très bonne journée à vous, Armel Aziar.
Merci.
Yvan Savy, on arrive au terme de cette émission. L'ONG Plan International milite depuis longtemps pour l'école des filles, hein, pour un accès des filles à la scolarisation pour toutes. À la lumière de ce qu'on vient d'entendre, de cette jeune militante, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger? On a de plus en plus de filles quand même qui arrivent sur le continent africain aux études supérieures, même si elles restent encore minoritaires, qui ont envie de redonner ce dont elles ont pu bénéficier, de redistribuer, d'aider la génération suivante.
Oui, mais c'est ça le résultat de 20 ans d'investissement dans ce développement-là, dans ces axes-là. C'est une génération ou plusieurs générations qui sont en train d'arriver, de jeunes filles et de jeunes garçons, parce que ces jeunes filles, elles se sont éduquées et elles ont accompagné des jeunes garçons qui n'avaient pas l'habitude de voir des filles continuer leur scolarité. Et ça, ça crée sur cette nouvelle génération un éveil, une envie de réussir, une envie de rendre et de réinvestir pour leur communauté. Et je crois que ce qu'a dit Armel est très important. Il faut des choses pratiques. Et l'éducation, nous, on l'a toujours conçue comme un moyen pour pouvoir avoir du choix dans la vie. Et le premier des choix, c'est de pouvoir exercer une activité professionnelle. Et donc ça, c'est aussi un des défis. Il faut que l'école, elle ne forme pas à la théorie, mais elle le forme à l'éveil des consciences et à la pratique d'un métier. C'est de l'apprentissage.
Et c'est ce qui aide aussi les filles à avoir confiance en elles. Merci beaucoup, Yvan Savy de l'ONG Plan International. Merci à vous tous et toutes. Merci aux voisines, surtout pour leurs appels et contributions. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission chaque jour. Et demain, on parlera d'un tout autre sujet, la croissance urbaine, notamment sur le continent africain. Les villes s'étalent inexorablement, ce qui augmente le temps passé dans les transports. Vos témoignages nous intéressent. Comment vous ressentez cette augmentation de la population et de la taille de votre ville? On donnera la parole à des architectes urbanistes qui nous diront quelles seraient les solutions pour améliorer le vivre en ville. Notre numéro WhatsApp, c'est toujours le même, 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec, allez, je vous offre Femme Camélia Jordana.
Mesdames, mes femmes, prenons les armes, il est temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant.
C'est fini.
Autour de la question. Caroline.